Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h32, le débat des grandes voix du vendredi à présent avec à mes côtés ce soir Virginie Leguet. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Julien.
Chef adjointe du service politique de Paris Match, Emmanuel Dutheil en charge du service éco-économique d'Europe 1.
Bonsoir Emmanuel. Julien, bonsoir à tous.
Et Alexandre Malafaille, écrivain et entrepreneur qui nous a rejoint depuis le début de la saison dans le Club des Idées. Bonsoir,
bonsoir
Alexandre.
Julien, bonsoir à tous.
Alors on évoque bien sûr pour commencer ce soir la crise sanitaire qui prend un nouveau tour d'une certaine manière. Jean Castex a dévoilé de nouvelles mesures en fin d'après-midi, on vient d'en parler à l'instant dans le rappel des titres, mais pas de tour de vis supplémentaire au niveau national, en tout cas pour l'instant.
Oui, le virus est là et nous devons réussir à vivre avec lui. Cela dépend fondamentalement de nous. Nous devons impérativement respecter les règles de distanciation physique, nous laver régulièrement les mains, porter le masque.
Voilà, rien de nouveau sous le soleil, hein, les masques, la distanciation, respecter les règles sanitaires, ça fait un petit moment qu'on entend ce message. Comment jugez-vous cette communication, j'allais dire, à tiroir du gouvernement, Alexandre Malafaille ?
Écoutez, ce soir, j'ai trouvé un Premier ministre bien dans son rôle et surtout cohérent. C'est-à-dire que quand même, ça fait un grand moment qu'on nous fait plonger dans l'ambiance de la dictature sanitaire et de « on va tous mourir demain ». Et là, ce soir, j'ai trouvé un Premier ministre rassurant. Alors d'abord, il n'a pas suivi les directives du Conseil scientifique. On a entendu le professeur Delfraissy sur à peu près toutes les antennes
oui.
demandant un grand tour de vis. On a entendu encore il y a quelques minutes le professeur Juvin
oui.
déplorer qu'on n'ait pas encore enfoncé le clou. Et là, on est à contrario sur un Premier ministre qui, à mon sens, ne croit pas à un rebond de l'épidémie. Vraiment, le Conseil de défense ne pense pas à un rebond. Alors après, ils se fondent peut-être sur des chiffres. Moi, je n'interroge que les chiffres. Regardons ce qui se passait au printemps.
Oui.
Au printemps, nous avions jusqu'à 1500 morts par jour, pas tous les jours, mais jusqu'à 1500 morts par jour, et un nombre de cas qu'on n'arrivait pas à détecter. Mais combien y avait-il de cas pour avoir 1500 morts par jour ? Aujourd'hui, on a 10 000 cas qu'on détecte, et on a entre 5, 10 et 15 morts, et une centaine de personnes qui sont hospitalisées plus en une semaine. Donc je pense qu'en fait, on peut peut-être imaginer qu'on est peut-être en train d'arriver à la fin de l'épidémie, que comme tous les coronavirus, on a une espèce de courbe en cloche, et qu'on en sort lentement, alors qu'il faut en sortir avec beaucoup de précautions pour éviter voilà, de se retrouver avec un emballement. Mais il y a peut-être quelque chose en creux à lire dans les propos du Premier ministre qui est en courant un message rassurant. Et quand il dit encore quelques mois, moi je prends ça comme plutôt un bon signal. Mais en revanche, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention
oui.
pendant les quelques mois qui viennent parce qu'il y a un enjeu de sécurité.
Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver, Virginie Leguet, entre ces allers-retours permanents de communication qui suscitent, c'est vrai, la défiance des Français d'une certaine manière. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, disait encore il y a quelques jours, Alexandre le rappelait, on va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles.
Oui, alors on peut s'interroger sur le constant carambolage du discours du Conseil scientifique et du discours de l'exécutif depuis des mois et des mois. Personnellement, je trouve ça dommage, ça nuit à la ligne.
Oui.
Les Français n'y comprennent plus rien et ne savent pas très bien quelle est la parole qui prévaut sur l'autre. Donc ça c'est un point. Pour autant, je ne sais pas si, comme le dit Alexandre Malafaille, on s'oriente vers la fin de l'épidémie, je serais bien incapable de le dire, je ne suis pas épidémiologiste, mais ce que je vois, c'est que là où l'exécutif a malgré tout appris de ses erreurs, c'est qu'aujourd'hui il fait appel au civisme, il a bien compris que rendre l'utilisation des gestes barrières presque coercitives est absolument impossible, d'ailleurs ça n'a pas marché pendant l'été, notamment auprès des jeunes, qui sont probablement ceux qui aujourd'hui sont peut-être en train de contaminer les générations aînées et que donc il est plus raisonnable de dire à
oui.
chacun écoutez, vous êtes chacun capable de respecter un certain nombre de gestes de prudence, je vous demande de les respecter
oui.
scrupuleusement.
Ça fait longtemps qu'on fait porter sur la responsabilité individuelle le cours de l'épidémie tout de même.
À ce point-là, je ne trouve pas, parce que jusqu'à présent, on disait il faut faire ci, il ne faut pas le faire, le masque ne sert à rien, le masque sert, faites ci, faites pas ça, vous allez voir, ça va barder. Là, on ne dit pas ça va barder, on dit il y a des départements rouges, il y a des villes où c'est particulièrement critique, Marseille, Bordeaux, et n'oublions pas la Guadeloupe qui n'est pas
oui,
une ville.
Oui.
Voilà, il y a des endroits où franchement c'est un peu chaud. Si vous voulez éviter qu'on tourne à la catastrophe, faites vraiment très attention et respectez un certain nombre de choses.
Et
je trouve que c'est un discours assez prudent.
Bien.
Et
satisfait-ci donc.
Pour une fois,
Virginie
je
Leguet.
Trouve que ça prend en compte. Non, mais ça prend en compte ce qui est très difficile, c'est-à-dire l'acceptabilité de chacun des mesures qu'on leur demande.
Mais ça prend aussi en compte, Emmanuel Dutheil, l'enjeu économique. On sent bien que là, il y a une jauge qu'essaye de trouver le gouvernement entre réponse sanitaire et poursuite de la vie économique du pays.
Mais juste un point, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit dans la communication du Premier ministre. Il a quand même commencé par nous dire qu'on était au même niveau qu'en mars dernier. C'est le début de son intervention et je trouve que derrière, ne pas annoncer de mesures peut se dire bon, finalement, à quoi ça servait soit de se confiner à l'époque ou effectivement, aujourd'hui, on a moins d'inquiétude parce qu'on a une énorme inquiétude économique.
Et surtout, pardon, mais à quoi servait de prendre la parole solennellement?
Mais on ne sera plus jamais au même niveau qu'en mars où on n'avait pas de traitement, pas de masque.
Bien évidemment. Aucun
arsenal médicamenteux contre la maladie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous, je trouve étonnant de prendre l'argument des chiffres pour débuter, finalement ne rien dire derrière, en tout cas ne pas annoncer de mesures. Moi, à titre personnel, c'est un point qui m'a étonné parce que quand ça commence comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant?
Et le même Premier ministre Jean Castex, qui il y a 10 jours, même endroit, quasiment même heure, qui prenait la parole en conférence de presse cette fois avec ses ministres, notamment le ministre de l'Éducation nationale, Olivier Véran, le ministre de la Santé, et qui a commencé par dire, attendez, pas de quoi paniquer en ce moment. Pas de quoi paniquer.
Objectivement, là où il faut qu'on fasse très attention, c'est qu'il y a un sujet, il faut être vigilant. En effet, il faut protéger notamment les plus vulnérables. Mais attention, on va, je crois qu'il faut dire aux Français, on va très très peu encore mourir du Covid. Par contre, si on continue à casser l'économie comme on est en train de la casser en France, en Europe,
etc. Personne n'est capable de répondre à ça. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est bientôt la fin de l'épidémie. Le Premier ministre, il dit ça uniquement pas parce que c'est la fin de l'épidémie, parce qu'on espère avoir des vaccins. Ce qui est très différent.
D'abord, Virginie a dit un point très important, c'est qu'aujourd'hui, on soigne, on ne veut pas l'affirmer, on ne veut pas le dire publiquement.
Si, on dit qu'on a des corticoïdes et que les corticoïdes font effet.
Donc voilà, aujourd'hui, on prend la maladie en charge, comme on prend toutes les maladies en charge. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, mais il faudrait communiquer encore plus fort là-dessus pour rassurer tout le monde. Et surtout, parce qu'on ne va pas mourir de Covid, mais on va mourir de faim. Et puis, je vous garantis que dans 2 ans, si on continue à ce train-là, qu'est-ce qui va se passer en France? On va avoir une masse de chômeurs en plus considérable. Beaucoup de gens perdront leur job, mais je peux vous garantir que les finances publiques ne serviront plus à payer suffisamment les traitements, des fonctionnaires et les pensions des retraités.
Le
ça va
remède
arriver, ça,
sera
après 2022,
plus fort que le mal, c'est ce qu'on entend depuis le début. 18h39, on marque une première pause, on se retrouve dans quelques secondes et on continue d'en parler. Notamment, je voudrais votre avis sur les libertés aussi individuelles qu'impliquent ces restrictions liées au Covid. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours ensemble avec le débat des grandes voix du vendredi. Virginie Leguet, Emmanuel Dutheil et Alexandre Malafaï. On évoque évidemment ces annonces faites tout à l'heure par le Premier ministre. Pas de tour de vis supplémentaire, a dit Jean Castex au niveau national. Il attend, dit-il, la remontée des préfets et des mesures d'ici lundi dans les zones qui posent question, notamment la Guadeloupe, Marseille, les Bouches-du-Rhône, et puis Bordeaux, où il y a une remontée des cas qui inquiète. Tiens, une question que tout le monde s'est posée à un moment. Pourquoi ne pas confiner les personnes les plus fragiles? On sait aujourd'hui que la mortalité, c'est eux qui en sont les premières victimes, les plus de 70 ans notamment. J'ai vu les chiffres, plus de 90 personnes des victimes qui décèdent du Covid-19 ont plus de 70 ans. Pourquoi ne pas confiner une tranche d'âge en particulier?
Parce qu'a priori, c'est pas égal. Le président de la République l'avait...
C'est anticonstitutionnel, c'est ça?
C'est ce que le Conseil constitutionnel, en effet, avait dit lorsque le président de la République avait fait cette proposition. Je crois que c'était en fin avril ou quelque chose comme ça. Et là, ce soir, on a bien vu que Jean Castex allait sur cette même ligne-là en le recommandant, mais il ne peut pas y avoir de mesure coercitive qui dit « Vous avez plus de tel âge et vous devez rester chez vous ». Mais c'est un appel au bon sens. De toute façon, les personnes âgées et les personnes à risque sont toujours les plus vulnérables, quelle que soit la problématique épidémiologique. Que vous ayez une grippe, une épidémie de gastro-entérite, vous êtes en situation à risque plus fortement. Oui. Maintenant qu'on essaye effectivement de relancer le pays en disant attention, ceux qui sont en danger, faites gaffe, mais n'empêchez pas de relancer le pays, c'est aussi du bon sens et je trouve que ce message-là, il peut être entendu.
Alors, on voit aussi que l'aspect économique imprime, on l'évoquait avec vous, Emmanuel Dutheil, puisque la réduction de la durée d'isolement passe de 14 à 7 jours. Alors là aussi, très franchement, en termes de communication, on nous a dit pendant des semaines et des mois qu'il fallait être isolé 14 jours pour arrêter d'être contagieux, puis le conseil scientifique nous dit il y a quelques jours, en fait, on a réalisé que c'était 7 jours.
Alors, je crois que ça vient aussi du fait qu'on teste mieux et plus vite maintenant. C'est un des points les plus importants, pour être très honnête avec vous. On a eu un cas contact ou possiblement contact cette semaine.
Restez à distance.
Proche du service économique, mais je vous rassure que la personne est négative. Ah. Et effectivement, on l'a mis chez elle pendant quelques jours. Elle a fait un premier test jeudi. Elle en a refait un avant-hier. Elle a eu le résultat hier et donc elle a pu revenir au travail aujourd'hui. Donc effectivement, en 7 jours, on a eu une certitude qu'elle n'était pas positive.
Mais c'était une attente forte des entreprises aussi.
C'était une attente extrêmement forte.
Le temps d'isolement.
Là, je peux encore vous prendre cet exemple. Mais effectivement, ça pénalise le travail quand d'un coup d'un seul, il faut mettre la personne en quarantaine, entre guillemets, même si c'était plus que 14 jours. Donc effectivement, c'était une attente extrêmement forte du monde économique. Parce que le monde économique, mais comme vous disiez, Alexandre, il y a un instant, a absolument besoin d'une chose, c'est de visibilité. Ils ont besoin de confiance et de visibilité. Et le gouvernement est paniqué à l'idée de se dire que les milliards qui viennent de mettre sur la table avec le plan de relance ne servent finalement à pas grand-chose s'il n'y a pas de confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui va aller changer sa flotte automobile, acheter une machine plus performante ou autre pour imaginer un développement.
On voit bien que la consommation est à tonne pour l'instant. Et que...
Alors, Malgré tout, ce qui est assez intéressant, vous le verrez lundi dans les chiffres de croissance que publiera la Banque de France, a priori...
Parce que vous les avez ?
Non, je ne les ai pas.
Parce que sinon, je les veux bien.
Non, je ne les ai pas. Je les ai pas.
Il est très fort.
Je ne les ai pas, mais je peux vous assurer qu'ils sont, que la tendance va être un poil moins cataclysmique que ce que l'on pouvait imaginer. Ça reste dramatique, hein, ça reste historiquement bas, mais c'est pour ça qu'ils pensent qu'en ce moment, il faut absolument mettre l'accélérateur, parce que peut-être qu'il y a un simili de redémarrage qui peut être intéressant à suivre.
Sur la question des libertés individuelles, alors le débat n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est vrai qu'on a lu et on a vu Bernard-Henri Lévy, on a entendu le philosophe André Comte-Sponville, on a vu cette annonce et cette tribune publiée ce matin dans Le Parisien, où plusieurs chercheurs scientifiques de renom dénoncent une communication anxiogène. Est-ce qu'il y a, d'une certaine manière, une forme de dictature sanitaire ? On revient à la question qu'on évoquait au début du débat, c'est-à-dire que les scientifiques prennent le pas sur la décision politique. Est-ce que c'est toujours le cas à vos yeux, Virginie Legay ?
Je pense que les scientifiques, pardon, hein, qu'ils me pardonnent aujourd'hui, mais ça fait 6 mois que je les entends tous les jours, ils s'expriment trop et ils s'expriment de façon extrêmement différente les uns des autres, ce qui rend leur communication totalement illisible. Ils feraient mieux de donner leurs conseils en interne aux politiques, parce que malgré tout, la décision finale, elle revient toujours aux politiques. Donc je trouve que ce brouillage de la communication des uns et des autres, s'il faudrait faire ça, faudrait pas le faire, finalement ce virus est nouveau et finalement chaque jour qui passe, on en découvre des choses différentes. Moi, je voudrais quand même dire 2 choses.
Allez-y.
Le gouvernement, il est sur une voie très étroite. Oui, il veut faire revenir les gens au travail et oui, il veut éviter que l'épidémie ne retouche à nouveau la population la plus sensible, c'est-à-dire les plus de 60 ans ou de 65 ans. J'ajouterais aussi que ceux-là même à qui on dit peut-être qu'ils devraient être confinés, ceux-là sont très prudents. Ils portent toujours un masque, ils restent souvent chez eux, ils évitent de se mélanger, ils ne vont pas dans les endroits où il y a d'autres gens. Ceux-là, ils sont quasiment déjà auto-confinés. Oui, oui. Ils mènent leur vie, mais ils font très très attention.
C'est peut-être pour ça que la mortalité n'augmente pas d'ailleurs, comme le disait Alexandre
Malafaï.
C'est
peut-être pour ça qu'après 2 mois de brassage estival, il n'y a pas plus de cas que ça.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a, ici ou là en France, des afflux dans les hôpitaux. Et là, on retrouve les âges de ceux qui déjà venaient en mars. Je rappelle quand même que la différence est fondamentale entre maintenant et le mois de mars. On est armés, on sait s'organiser. Les hôpitaux ont travaillé beaucoup en mars et sont prêts à retravailler beaucoup, mais surtout, ils ont les moyens de soigner les gens, ils ont les moyens de les accueillir. Et les gens ont les moyens de se protéger avant même de tomber vraiment malade. Ça change considérablement les choses. Il n'y a pas de vaccin, mais tout le reste y est. Et il n'y aura plus jamais, à mon avis, de situation comme mars. Plus jamais.
Alexandre Malafaï ?
Oui, plus jamais, ça, il y a de fortes chances, et c'est tant mieux. Puisqu'on a parlé du conseil scientifique, moi, je pense en effet que le conseil scientifique ferait bien de fermer sa gueule. Pardonnez-moi de cette trivialité, mais je le dis très clairement.
Ah, je m'y attendais pas, celle-là.
Parce que c'est c'est insupportable. On ne peut pas en permanence souffler le chaud et le froid, vouloir faire pression sur l'autorité politique au nom de principes qui sont uniquement dictés par des considérations sanitaires et parfois bizarres.
C'est vrai que le professeur Delfraissy, dans un autre genre, est devenu un personnage public au même titre que le professeur Raoult.
Qui parle au président de la République et à ceux qui ont besoin d'en connaître, c'est normal, mais qu'il fasse ce qu'il fait là et que voilà, ça, bon.
Mais c'est vrai qu'à l'entendre ce matin sur l'antenne d'Europe 1 à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk, on s'attendait à des mesures.
Il a été totalement désavoué et c'est tant mieux.
Il a fait pression sur l'exécutif d'une façon extrêmement
Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me préoccupe beaucoup par rapport aux fameuses libertés dont vous parliez, c'est qu'en fait, on est en train d'installer le principe de la peur sociale de l'autre. Et ça, si ça reste quelques semaines, quelques mois, ça va. Mais si c'est très long, c'est dramatique, parce qu'on ne peut pas arrêter d'avoir dans la vie en société des relations à l'autre. Et la relation, c'est de la transmission. La transmission, c'est y compris la transmission par l'odorat. Or là, on vient avec les masques, on nous prise de l'odorat. Mais j'insiste, attends, on nous a enlevé l'odorat. Vous rigolez ou quoi avec nos masques
H24. Oui, mais ça, c'est peut-être quand même une bonne chose.
Si on vous dit que porter un masque vous protège de la maladie.
Virginie Legay, s'il vous plaît, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Voilà, la fièvre monte dans le studio d'Europe Soir. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, on poursuit le débat des grandes voix du vendredi avec toujours Virginie Legay, chef adjointe du service politique de Paris Match, avec Emmanuel Duteil, en charge du service éco d'Europe 1, et avec l'écrivain et entrepreneur Alexandre Malafaï. Alors, après le sanitaire, on va évoquer maintenant la nouvelle sortie qui fait débat des écolos. Après le Tour de France, ce sont visiblement les sapins de Noël qui sont la cible, cette fois du maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Il a dit ceci.
Nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Pébalan, hein, vous gardez le souvenir de cet arbre mort qu'on faisait venir tous les ans. Donc ce n'est pas du tout notre conception de la végétalisation. En ce qui concerne les outils réglementaires, Fin 2020, nous adopterons ce qu'on appelle la charte des droits de l'arbre, qui est un règlement de protection des arbres qui n'existe pas. Donc d'ici à fin 2020, cette charte des droits de l'arbre sera adoptée.
Voilà, alors ce dont il parle pour l'arbre de Noël, c'est un grand arbre qui est installé sur la place de la mairie, qui fait 17 mètres de haut. Il n'en veut plus, dit-il, parce que c'est un arbre mort. Donc écologiquement, voilà, la symbolique est importante. Tollé de l'opposition qui dénonce l'idéologie des écolos. Et d'ailleurs, certains écolos critiquent aussi cette sortie. Isabelle Saporta, par exemple, qui dit « On a un vrai problème avec les maires écolos. S'ils ont une idée à la con chaque jour, on est mal parti. » Virginie Leguet.
Moi, je leur dis, écoutez, les amis, grandissez, faites votre mue, vous ne vous adressez plus à des militants dans des petites salles minuscules, vous êtes maire, maintenant, vous avez voulu les responsabilités, vous les avez, mais alors apprenez à devenir un parti d'adultes, priorisez vos combats, ne mettez pas tout sur la table de façon aussi désordonnée, et franchement, cette histoire d'arbre, ça décrédibilise le reste des propositions qui ont été faites et qui sont très intéressantes au titre de la mobilité de la ville, du vélo, des alternatives à la voiture, tout ça est absolument renvoyé aux oubliettes à cause d'une proposition idiote.
Alors, le maire, Pierre Urmic, se justifie quand même. Il dit ce grand sapin, ça coûte près de 60 000 euros, plus le transfert, plus la logistique, 12 agents mobilisés en horaire de nuit, 3 nacelles et une grue de 30 tonnes. Bref, ça coûte cher, dit-il. C'est aussi cet élément-là qui fait qu'il souhaite le supprimer, Emmanuel Dutheil.
Moi, je comprends les deux arguments, mais j'ai juste envie de répondre que généralement, en tout cas, la majorité des arbres qu'on utilise pour Noël sont des arbres qui poussent que pour cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on va détruire des forêts pour cela. Donc, il y a ce point-là. Et le deuxième point, c'est qu'à cause de cela, c'est toute une filière en France, puisqu'on est extrêmement en pointe en la matière, que l'on pourrait détruire si on pousse la logique. Mais moi, je suis quand même d'accord avec vous, mais je trouve que c'est intéressant la question que ça pose. Le seul fait qu'on en parle soir, c'est qu'on a du mal quand même à se positionner, en tout cas moi, à me positionner complètement, mais attention quand même à ces deux points pour effectivement pas tomber dans une totale démagogie.
Ça participe à une forme aussi, disent certains, de magie. Ça permet de faire vivre un centre-ville, de faire venir des gens, d'illuminer la ville et de faire vivre une forme
de où il y a une vraie filière économique de Noël autour de tout ça.
Mais j'ai regardé, figurez-vous, plus de 7 millions de sapins achetés chaque année. 7 millions, c'est quand même énorme, mais c'est pas 60 millions non plus.
Il y a 30 millions de foyers, c'est pas
30 millions de foyers, voilà. J'étais en train de calculer le nombre de foyers. Presque 25% des foyers achètent chaque année donc un sapin de Noël. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Alexandre Malafaye ?
Comme le disait Isabelle Saporta, c'est un vrai concours l'épine de la bêtise. Ça, c'est très impressionnant depuis quelques jours. Après, c'est triste que l'écologie veuille s'imposer dans le paysage politique nouveau, puisqu'ils ont cette place qu'ils occupent avec des idées qui sont complètement absurdes. Et puis, au nom de quelle légitimité ? Enfin, le maire de Bordeaux devrait regarder son score. Il a fait objectivement 17% au deuxième tour, parce que peu de gens ont voté. Donc, 17%, c'est quelle légitimité pour remettre en cause une tradition française. Non, mais attendez, pour moi, c'est un point fondamental. On ne peut pas l'oublier. 17%, on n'a pas le droit de tuer Noël.
Alors, votre coup de griffe pour terminer ou votre coup de cœur ? On commence par vous, Emmanuel Dutheil.
Eh bien, moi, je vais vendre mon antenne, puisque hier, j'ai eu la chance d'interviewer la patronne de l'université Paris-Saclay. Paris-Saclay est la toute première université française à se classer dans les 15 premiers du classement de Shanghai, qui est le classement de référence des meilleures universités au monde. On est 3e européen grâce à cela, derrière Cambridge et Oxford. Et ce qui est impressionnant, c'est la leçon qu'elle donne sur un regroupement sans tuer les spécificités des uns et des autres.
Donc Cocorico.
Cocorico, effectivement.
Virginie Leguet, vous avez 20 secondes.
Eh ben, on l'a abordé tout à l'heure. Moi, mon coup de gueule, c'est le professeur Delfrécy. Franchement, il m'a fatiguée, il parle trop. Je ne sais pas ce qui lui monte à la tête, mais qu'il redevienne un petit peu discret et raisonnable parce qu'il est contre-productif.
Alexandre Malafaye.
Mon coup de cœur sur les juges du Conseil constitutionnel qui ont annulé donc l'obligation de payer l'amende de stationnement avant de devoir la contester. Je trouve que bravo.
C'est bien français,
ça. Non, mais attendez, il fallait payer avant d'avoir le droit de contester. Là, on peut contester si c'est pas juste. D'autant plus qu'il y a une véritable dérive depuis qu'on a privatisé le stationnement des boîtes qui, effectivement, font le job, qui ont la politique du chiffre au cœur de leur modèle. Alors, maintenant, les Français auront le droit de mieux se défendre. Et bravo aux juges qui sont quand même les derniers remparts de nos libertés dans ce pays.
Merci à tous les trois. C'était passionnant. Le club des grands. Grande voix du vendredi, c'est donc tous les vendredis à partir de 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
Et on continue dans quelques secondes avec le journal de 19h et juste après, comme chaque soir, on ouvre le club des idées. La France serait-elle devenue puritaine ? On en débattra avec nos invités, à tout de suite.